D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisque on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzig. L'appellation siècle de Louis XIV date du siècle de Louis XV. C'est Voltaire qui a donné ce titre à un livre sur le règne du roi supposé solaire. Et ce règne, nous a-t-il montré, a été celui du génie. Tant de grands artistes, Lebrun, Levaux, Lenôtre, Racine, Lully, tout ça, on le sait. Ce qu'on a un peu oublié, c'est que ça a aussi été le règne de la propagande. On était absolutiste dans le compliment comme on l'était dans le gouvernement. Rien n'est comparable à la beauté de tous les opéras que Lully a fait, écrit par exemple Charles Perrault. Il était de l'intérêt de ce roi qu'on le déclare le plus grand roi du monde, pour les arts aussi, mais ce n'était pas moins l'intérêt des artistes. Il se rendait éloge pour éloge avec une générosité très intéressée. Et c'est comme ça que sont passés pour de grands écrivains des littérateurs honorables comme Boileau ou des musiciens qui appliquaient parfois les ordres esthétiques comme Lully. Le siècle de Louis XIV a été une grande entreprise nationaliste. Les Français l'ont oublié. Quand nous écrasons victorieusement les autres, nous avons l'impression qu'ils doivent nous en remercier. Les étrangers s'en souviennent davantage. Louis XIV est un des rois les plus détestés à l'étranger pour son mépris et sa dureté. Quand les artistes étrangers ne se tenaient pas comme ils le voulaient, ils étaient maltraités. Le Bernin, par exemple. Et ce roi qui a tant aimé chasser les gens n'a pas chassé que les Huguenots. Dans sa ferveur protectionniste, en 1697, il renvoie de Paris les comédiens italiens. Aussitôt, les entrepreneurs qui n'avaient pas eu beaucoup d'imagination, ceux des théâtres de foire saisonniers, récupèrent les personnages et les situations des dramaturges qu'on avait renvoyés. Les maisons des vaincus sont toujours pillées par les parasites des vainqueurs. Sur ces dépouilles, l'opéra comique est créé en 1714. Il a ouvert au public l'année même de la mort de Louis XV, 1715, il y a 300 ans. Et donc, à l'occasion du 300e anniversaire de l'ouverture de ce théâtre, je reçois pour en parler Jérôme Deschamps, qui le dirige depuis 2007. Jérôme Deschamps, je crois que l'opéra comique est une des plus anciennes institutions de spectacle de France. Avant lui, je crois qu'il y a eu l'opéra de Paris qui est de 1669, sauf erreur, et la comédie française de 1680.
Absolument, ça s'appelait alors l'opéra de Paris, l'Académie royale de musique. Et l'opéra comique a peut-être mieux fait que vous nous dites, il a mieux fait que de naître sur des dépouilles, mais c'est vrai qu'il est né dans les foires, à la foire Saint-Laurent, à la foire Saint-Germain. Les foires, c'était des endroits où on se rencontrait, qui étaient assez peu improvisés en réalité. Après, je ne parle pas de la création artistique, mais c'était très organisé sur le plan de l'architecture, et c'était vraiment un lieu de vie très très fort, où on se rencontrait, c'était un lieu nocturne aussi.
Qu'est-ce qu'on appelle exactement une foire ? Parce que en français moderne, on a l'impression que c'est sur une place, un rassemblement avec des jeux et des guinguettes.
Oui, mais c'est... Oui, voilà. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'espèce de foire commerciale qu'on connaît aujourd'hui, même si c'est échangé beaucoup de marchandises. Mais c'était vraiment aussi des lieux de plaisir, et c'est vrai qu'on y rencontrait des artistes et que l'opéra comique... est né là. Il est né là et au fait, il est né, on parlait de ces deux institutions, l'Académie royale de musique, la Comédie française. Il faut dire que ces deux institutions avaient des privilèges et ces privilèges, c'était le privilège de l'art lyrique pour l'Académie royale de musique, le privilège du théâtre pour la Comédie française. Et c'était un privilège exclusif, c'est-à-dire que aucune autre formation n'avait le droit d'utiliser ni le chant ni le théâtre. Et donc, il y avait des interdits qui pesaient sur l'opéra comique qui est né en contournant ces interdits avec des pancartes pour le théâtre, en utilisant des airs connus et en changeant les paroles.
Ça veut dire qu'on représentait au départ quel type de spectacle ?
Alors, c'était des spectacles extrêmement légers, qui étaient très souvent impertinents, insolents, contestataires, mais toujours au contact avec la société. Donc, au fond, d'une certaine façon, très éloignés du grand opéra et de ces deux institutions. Et il y avait quelque chose de sauvage, un peu, dans cet exercice, et vraiment d'interdit, ce qui fait qu'ils étaient poursuivis et que, voilà, il est né... contre un peu l'opéra comique. Et c'est plutôt un théâtre qui est proche de la société. Il faut rappeler peut-être que l'opéra comique, ça veut dire un genre qui mêle l'art lyrique et la comédie.
De quand date l'appellation de ce moment-là ?
Oui, absolument. Mais le comique, ça veut bien dire comédie. Ça veut bien dire que, aussi, ça n'est pas toujours drôle.
C'est ça, c'est pas dans le sens de farce ou de...
Non, ça peut être drôle aussi. Mais enfin, on ne peut pas dire que Lacmé ou Carmen finissent bien, comme vous savez. Alors donc...
Mais la définition, pardon de vous couper, c'est des parties de texte entremêlées de parties chantées,
c'est l'alternance du chanté et du parler. Donc c'est un art un peu particulier et qui a évolué beaucoup dans le temps parce qu'il s'est installé dans différents endroits. Il a déménagé, il a brûlé à plusieurs reprises. Et il a eu une histoire très, très mouvementée, d'ailleurs jusqu'à une époque récente, on peut le dire, puisqu'il a été rattaché un temps au siècle dernier à l'Opéra de Paris. Et puis, il en a été détaché à nouveau. Mais toujours avec une histoire un peu chaotique, où quelquefois, ce genre a pu s'exprimer trop rarement, quelquefois peut-être un peu méprisé ou sous-estimé par les Français, alors qu'il continuait d'avoir grand succès à l'étranger. Il faut savoir que quand même, c'est à l'Opéra Comique qu'on a créé le plus d'œuvres. Il y a eu, je crois, près de 2500 œuvres qui ont été créées pendant ces trois siècles, ce qui est énorme.
Physiquement, parce que c'est un lieu très parisien, l'Opéra Comique, vous nous avez dit que son histoire était chaotique et que ça avait changé d'endroit beaucoup. Je crois que ça a été brûlé au moins deux fois, sinon trois. Absolument. À quels endroits de Paris ça s'est placé ? On peut dire que c'est un théâtre rive droite. Est-ce que c'était... Où était-ce d'abord ?
Ah bah, il s'est promené. D'abord, il était dans les foires. Après, il était à l'hôtel de Bourgogne. Au fond, il faut imaginer la vie des théâtres comme une bataille, assez sévère en réalité. Vous savez, il y a des gravures qui représentent l'opéra comique assailli par la Comédie française et par l'Académie royale de musique dans des combats incroyables, sur des gravures assez drôles, mais qui traduisent une réalité tout à fait concrète. C'était très difficile, on avait des hauts et des bas, il y avait, sur le plan économique, il y avait des difficultés, et puis tout d'un coup, il y avait des directeurs qui relevaient le défi, qui reprenaient le flambeau et qui repartaient à la bataille. Et donc, il y a eu une concurrence, mais d'une vigueur qu'on n'imagine pas, parce qu'on imagine que tout ça, finalement, fait partie d'un beau passé installé, convivial, où chacun y allait de sa partition. Mais pas du tout. C'était une bataille furieuse, avec des drames, avec des incendies, avec des histoires extraordinaires, comme on a connu cette maison.
Alors, dans vos grands prédécesseurs, Jérôme Deschamps, il y a quelqu'un dont je voudrais que vous m'expliquiez si brièvement que ce soit qui c'était, car après tout, votre opéra presque porte son nom. C'est Favart. Qui était ce Favart ?
Ah ben, ce Favart a été un grand inventeur de l'opéra comique.
C'était quand ?
Il a créé énormément de choses. Ben, c'était pratiquement au tout début de l'histoire de l'opéra comique. Et il y avait Madame Favart aussi, qui a été un personnage très important, qui a... donner des interprétations, au fond, assez nouvelles.
Elle était chanteuse, donc.
Oui, elle était chanteuse.
Lui était quoi, pardon de vous interrompre ? Il était librettiste ?
Absolument. Il a été aussi un grand animateur de cette maison. Et il a... c'était vraiment un couple, cette histoire. Elle a réinventé l'interprétation, vraiment, en étant... En allant vers une interprétation, je dirais, plus naturelle et plus au contact des gens, parce que c'est ça un petit peu le secret de l'opéra comique, c'est d'être au contact de la société. C'est sa tradition, c'est sa façon d'être populaire dans le plus beau sens du terme. Et ça, elle l'a vraiment inventé au plan de l'interprétation et même dans sa façon d'être sur scène.
Une des grandes périodes de l'opéra comique a été la Troisième République, en particulier vers les débuts de la Troisième République. Je crois que vous avez cité Carmen, ou en tout cas, puisque ça a été créé chez vous. Je crois que les Contes d'Hoffmann ont été créés chez vous, que Manon, Péléas et Mélisande. Donc c'était aussi...
Ça, c'est un peu plus tard.
Un peu plus tard, ouais. Mais on oublie de... Je pense que si on demandait au grand public, il se dirait que ça a été créé à l'Opéra de Paris, ça, non ?
Non, je pense pas.
Non.
Enfin, peut-être. Vous savez, peut-être que cette histoire de l'opéra comique qui a connu des hauts et des bas fait que on sait plus très bien où sont nées les choses dans le grand public, on pourrait dire, parce que les œuvres sont jouées un peu partout. Or, cette salle Favart où nous sommes, cette troisième salle Favart, elle a des caractéristiques absolument exceptionnelles. Il y a une dimension. Il y a une proximité du public, une intimité du son qui font qu'on est dans la salle à l'intérieur du spectacle. On est au milieu des artistes, d'une certaine façon, comme on est au milieu du son. Ce son exceptionnel qui permet aux chanteurs d'être dans la nuance et d'être dans une dimension parfaitement appropriée à ce répertoire. Et vous savez, c'est une sensation, si on a la chance de se promener comme ça dans différentes salles et d'y voir quelquefois les mêmes œuvres, on peut se rendre compte. Il y a des salles où, si vous voulez, on assiste à la représentation, et il y en a d'autres où on est dedans. Et ça, c'est un confort merveilleux pour le spectateur quand il est dedans, mais ça peut être aussi un inconfort pour les artistes qui sont quelquefois conduits à porter la voix de telle façon qu'on pourrait les assimiler à ce qu'on appelait un peu vulgairement des gueulards, enfin les objets. Et or, la voix, c'est un instrument extrêmement fragile. Et faire entendre dans une salle la voix chantée et aussi la voix du théâtre, c'est tout à fait exceptionnel. Et il faut qu'il y ait une acoustique absolument remarquable et particulière, et c'est le cas de la salle Favart de l'Opéra Comique.
Nous allons maintenant entendre un extrait du premier opéra comique qui a été créé à l'Opéra Comique et pour l'Opéra Comique, Les Troqueurs. L'auteur en était un certain Antoine d'Auvergne, c'était en 1753, et l'air s'intitule « Trocon, trocon ».
Trocon, trocon, changeons compère, changeons compère. Trocon, 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 ouais de façon, changeons compère, changeons compère. Trocon, trocon, ouais de façon, ouais de façon.
Jérôme Deschamps, vous parliez dans la première partie de l'émission de la sonorité particulière de votre salle, mais il y a une chose que nous n'avons pas dite pour les auditeurs qui ne sauraient pas, qui n'y auraient pas été, c'est où se trouve cette salle, à quoi elle ressemble, quelle année l'architecte et quelle année l'ampleur.
Oui, alors cette salle, elle est un peu cachée, il faut le dire. Elle est un peu cachée, mais elle est sur les boulevards, elle est tout près de Richelieu-Drouot, elle tourne le dos au boulevard des Italiens. Pourquoi ? Parce que le terrain a été offert par la famille de Choiseul, qui a donné ce terrain pour l'Opéra Comique, où il a brûlé une fois d'ailleurs. et on l'a reconstruit un peu de, tout à fait dans les mêmes proportions. C'est Louis Bernier, l'architecte qui a gagné un concours, puisqu'il y avait eu 6 projets et différents, d'ailleurs tout à fait intéressants, mais on s'aperçoit en regardant ce qu'a fait Louis Bernier qu'il y a un souci de rester à la manière d'un théâtre de l'Ancien Régime, n'est-ce pas ? Ce théâtre, on a commencé à le construire donc à la suite de cet incendie épouvantable qui s'est passé pendant Mignon. Et qui
c'était en quelle année ?
En 1887, et qui a malheureusement causé des centaines de morts. Et puis, on l'a donc reconstruit. On a mis une dizaine d'années à le reconstruire, au point que c'était un gag. On disait, on blaguait beaucoup sur la reconstruction de l'opéra comique. Et quand quelque chose tardait, on disait, c'est comme la reconstruction de l'opéra comique. Alors, c'est intéressant parce que c'est à la fois une salle qui est faite dans les critères des salles de l'Ancien Régime, et en même temps, c'est une salle très moderne. Très moderne pour ses escaliers multiples, donc les conditions de sécurité sont toutes étudiées. Il y a chaque marche est faite dans une pierre différente de la précédente pour qu'on la voit mieux.
Quand vous dites critères de l'Ancien Régime, c'est quoi ?
C'est le style. C'est tout à fait intéressant de savoir que c'est un théâtre qui a été construit très peu de temps avant, par exemple le théâtre des Champs-Élysées, qui a une esthétique complètement différente. Et puis, c'est le premier théâtre d'Europe où il y a eu l'électricité.
Alors, vous disiez que votre théâtre a eu une histoire chaotique. En consultant l'histoire, j'ai trouvé, outre les incendies, des faillites, des passages sous le contrôle de l'Opéra de Paris, vous l'avez dit. Donc tout ça était assez hasardeux. Et finalement, et vous allez m'expliquer ça, le théâtre, ai-je lu, est redevenu théâtre national en 2005. Ça veut dire qu'il l'avait été, qu'il l'avait perdu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et quelles sont les missions ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement, théâtre national ?
Mais ça veut dire déjà, lui redéfinir sa mission. Et lui donner une sorte de respectabilité indispensable, et une autonomie et des moyens. Et au fond, ce théâtre, c'est vrai qu'il avait connu une histoire chaotique. Et puis quand on a construit l'Opéra Bastille, on l'a à nouveau détaché de l'Opéra de Paris, ce qui d'une certaine façon lui donnait une indépendance, mais c'était une indépendance un peu sans moyens. Et en tout cas, sans moyen de présenter son répertoire, sauf exception, dans de bonnes conditions. Alors, il y a eu des directeurs comme Pierre Médecin, comme Thierry Fouquet, qui ont eu, entre autres, l'amour, vraiment un amour très fort de ce répertoire, et qui ont donné de très belles représentations. Mais il n'y avait très souvent pas les moyens de faire ça à longueur d'année. Et donc, c'était l'opéra comique était encore récemment donc un peu rejeté. Et moi, au fond, ça ne m'intéressait pas du tout de le diriger sans avoir les moyens de mettre en lumière ce répertoire de la plus belle façon, au fond.
Ça veut dire que quand vous êtes arrivé et que le théâtre était déjà théâtre national, les budgets étaient devenus plus conséquents, ou c'est vous qui avez dû vous battre
pour... Non, c'est moi qui ai fait un projet. C'est moi qui ai fait un projet pour avoir les moyens de mettre tout ça en œuvre, et qui est clairement exprimé que si on ne me donnait pas le budget pour le faire, je n'irais pas.
Et votre financement est exclusivement un financement étatique ?
Absolument. Absolument. Enfin, exclusivement étatique. Non, on a les recettes du public et on a des recettes de mécénat, de quelques commercialisations qui sont importantes parce que ça nous permet d'équilibrer notre budget et de réunir des distributions et des artistes aussi brillants.
Donc ça veut dire que votre métier, comme celui de beaucoup de directeurs de théâtre maintenant, consiste aussi à faire des déjeuners et de rencontrer des gens pour obtenir du mécénat et d'aller passer beaucoup de temps à ça ?
Non, pas passer trop de temps à ça, mais le faire sans rechigner, parce que c'est... Oui, ça fait partie de notre mission que de faire se lever des forces. Mais vous savez, il n'y a rien de méprisable là-dedans. En réalité, il s'agit tout simplement d'alléger l'effort des contribuables quand on fait ça.
Alors, vous parliez de votre projet, Jérôme Deschamps, quand vous êtes arrivé à la tête de cette maison. Votre projet, en dehors du projet financier de gagner de l'argent qui est tout à fait légitime, quel est votre projet esthétique et comment avez-vous voulu transformer cette maison ?
Ben, le projet esthétique, c'était déjà de remettre à l'honneur le répertoire de l'opéra comique particulier, celui qu'on a cité, celui qui est très important, celui qui a fait tant de bonheur à la France et d'ailleurs au monde, parce qu'il faut savoir que des ouvrages aujourd'hui moins connus, comme le Pré au Clair qu'on va donner cette année, et d'autres, ou les Mousquetaires au couvent, ou Marouf, ça veut dire du Caire, qu'on a déjà produit, ont connu d'énormes succès, ont été joués sur les 5 continents, ont fait le tour du monde, et ça, on l'a un tout petit peu oublié, et ça faisait aussi partie de ma mission de ne pas remettre à l'honneur que des titres connus, mais aussi ceux qui avaient été un peu oubliés. Et puis, il y a un autre aspect, qui est qu'il se trouve que cette salle est admirablement appropriée au baroque, à cause de son acoustique exceptionnelle. Et donc, nous avons, à la suite de cette renaissance du baroque, dont William Christie a été un des brillants initiateurs, on en a redonné régulièrement. Et là, on donnera dès le mois de janvier les fêtes vénitiennes de Campra avec les arts florissants. Et on en est très heureux. Et puis, troisième volet, ne pas faire de l'opéra comique un musée, puisqu'il a été si créatif dans son histoire, mais continuer à donner des créations. Et on le fait cette année avec les contes de la lune vague après la pluie et au monde de Philippe Bussemans. Et très prochainement.
Vous parliez du baroque. Je crois que c'est chez vous qu'a eu lieu en 97 le fameux enregistrement du Attis de Lully par William Christie.
Oui, absolument. Ça,
qui a été au fond l'explosion de la renaissance du baroque.
Et on l'a repris. On l'a repris récemment avec, je dois dire, le même succès, le même enthousiasme avec. Peut-être une présentation qui était encore meilleure de l'aveu même de William Christie. Peut-être que le temps avait fait la maturité et la légèreté et la grâce, une grâce supplémentaire, même si les premières représentations avaient été merveilleuses. Mais je veux dire que c'était une aventure tout à fait extraordinaire.
Et je dois dire que je m'en voudrais si je ne citais pas une représentation que j'ai vue chez vous il y a 2 ans, c'était en 2012, c'était l'Égiste de Cavalli, qui avait été réalisé par Benjamin Lazare aux bougies et qui était vraiment un enchantement. Et probablement votre salle était faite pour ça. C'était une chose qui aurait été impossible à l'Opéra de Paris.
Oui, bien sûr.
Est-ce que vous voulez nous expliquer ce que c'était cette mise en scène?
Non, c'est une mise en scène. Oui, c'est vrai que Benjamin Lazare est très souvent dans un univers de reconstitution des représentations. Alors, ces reconstitutions, que ce soit pour la langue ou pour le cadre des représentations, elle est un peu toujours sujette à caution. C'est un peu le rêve de Benjamin Lazare qu'on met en scène, au fond, mais qui est tout à fait respectable et profondément poétique. Et je dois dire qu'il a fait merveille à plusieurs reprises aussi, avec sa Cendrillon aussi. Il a fait des choses très belles à l'Opéra Comique et on s'en réjouit.
Est-ce qu'il a d'autres projets chez vous ?
Pas pour l'instant. Vous savez, moi, je terminerai mon mandat à la fin de cette saison au mois de juin. Et voilà, il n'est pas dans les prochains programmes, mais ça n'ôte rien à l'estime qu'on a pour lui.
Est-ce que votre mandat est renouvelable ?
Mon mandat n'est plus renouvelable. Bon, statutairement, je ne peux pas faire plus de 2 mandats. Et donc, voilà, je suis invité à avoir une nouvelle vie.
Votre successeur est nommé et désigné ?
Oui, c'est mon successeur et mon directeur adjoint. Il s'appelle Olivier Mantei. Et il a beaucoup contribué à la réussite de ces saisons que j'ai partagées avec lui.
Et où allez-vous après ? Vous allez nous le dire.
Écoutez, il y a quelques spectacles qui continuent leur vie, comme les Mousquetaires au couvent, et que je vais reprendre ici et là. Il y a des projets de création à l'Opéra Comique, où on m'a invité. Je suis invité aussi dans d'autres théâtres. Et puis je vais aussi reprendre une activité théâtrale plus intense, parce que je l'ai un peu, comme on dit, mise en veilleuse pendant ces années.
Mais vous n'allez pas reprendre une salle ou une direction immédiatement ?
Mais écoutez, pas immédiatement, non.
Quelle sera la création au moment du 300e anniversaire, puisque vous nous dites que dans vos missions, il y a l'opéra, le répertoire classique, le baroque dont nous venons de parler, et la création sera...
Là, ça sera la reprise du Préau Clair de Hérold, qui a été un immense succès, qui a été joué 2000 fois dans cette salle, qui sera montée par Éric Ruff, l'actuel administrateur de la Comédie Française. Et voilà, on attend tout ça avec impatience. Ça a été un immense succès de l'opéra comique, peut-être le chef-d'œuvre de Hérold, dont on a déjà monté Zampa quand je suis arrivé à l'opéra comique, dont l'ouverture est très célèbre.
Quelle est d'ailleurs la pièce la plus représentée depuis le début de l'opéra comique chez...
On peut imaginer que c'est Carmen.
Vous avez créé en 2012 une académie, je crois,
oui.
Qui a pour but de former des chanteurs, c'est ça ? Qu'est-ce que...
Oui, c'est une chose très importante, parce que vous l'imaginez, cet art de passer du théâtre à l'art lyrique et de l'art lyrique au théâtre, c'est un art très particulier. Ce sont des techniques tout à fait spéciales qu'il faut voir enseigner. Or, il se trouve que, au fil de l'histoire, et peut-être pas par hasard, dans les conservatoires, on a abandonné l'idée d'une classe de l'opéra comique, comme on a d'ailleurs oublié les classes d'opérette, qui ont cessé d'exister. Et donc, il était important, alors qu'il y a eu une troupe à l'opéra comique après la Seconde Guerre mondiale, qui a formé de grands chanteurs, comme Michel Sénéchal, comme Christian Hédapierre, et des gens vraiment qui ont marqué l'histoire de l'opéra. Et il était important qu'on renoue avec la transmission et la tradition. Or, il y a encore avec nous, des chanteurs comme Franck Le Guérinel, qui ont été formés à cette école et qui sont détenteurs de cette tradition, des gens qui sont clés dans l'histoire de l'opéra comique et de la transmission du genre. Donc, on s'est proposé de créer une académie, l'Académie de l'opéra comique, qui réunit de jeunes chanteurs, mais de jeunes professionnels. C'est plutôt des gens qui... autour de 28-30 ans, qui sont déjà formés, mais qui ont un appétit particulier pour ce répertoire français, mais qui viennent du monde entier, et qui sont plusieurs centaines à se proposer à cette académie. Et bon, malheureusement, on n'a pas le choix d'en choisir plus qu'une dizaine, mais ils ont une chance extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils sont intégrés vraiment à la vie de cette maison. Ils sont intégrés aux productions, ils sont formés, à longueur de journée et de soirée, et ils sont d'une certaine façon parrainés par leurs aînés, et ça apporte une vitalité à l'opéra comique. Et on voit déjà, alors que cette académie a 3 ans, on voit déjà de jeunes chanteurs émerger de façon très forte dans la vie professionnelle.
Ma dernière question, Jérôme Deschamps, sera liée à celle-ci. Est-ce qu'au fond, votre mission secrète, et cette académie en serait un des moyens, n'est pas de faire revivre une chose que souvent les mélomanes reprochent aux chanteurs actuels, c'est-à-dire de ne plus savoir chanter le chant français, de ne plus avoir la diction traditionnelle? Est-ce que, et après tout, c'est aussi une chose dont il faut tenir compte, est-ce que dans cette idée de transmission, il n'y a pas ça aussi?
Bien sûr que si, bien sûr que si, bien sûr que c'est au cœur de ma pensée de faire qu'on comprenne, qu'on entende le français, qu'on entende le chant français, qu'on apprenne à l'aimer pour ceux qui ont oublié ou ceux qui ne l'ont pas assez connu. Et puis, au fond, ma mission, c'était de remettre l'opéra comique vraiment sur des rails qui font qu'on ne pourra plus lui faire vivre une histoire aussi chaotique que celle qu'il a connue.
C'était Secret Professionnel, le 156e. Réalisation Clotilde Pivin, attachée d'émission Daphné Abgral, prise de son Claire Levasseur, recherche Ina Sandra Escamez. Dans un instant, Villemonde.